ce soir, on va se retrouver et puis on va aborder un nouveau thème. On avait commencé l'année en évoquant la grâce. C'est un sujet qui est tellement important et c'est important de bien saisir et de bien comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Et on a vu ensemble que si on était sauvé, si on avait la perspective de pouvoir aller au paradis, d'avoir la vie éternelle, c'était parce que Dieu nous sauvait par grâce. Le salut nous est donné par grâce. Et puis on avait tout de suite enchaîné ensuite en évoquant la prière. Et on avait vu que si nos besoins sont comblés, c'est grâce à la prière, c'est grâce à cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et assez logiquement, dans la suite de ce qu'on a déjà vu, maintenant, à partir de ce soir, on va voir comment remporter la victoire quand on rencontre des difficultés. La façon dont on fait face aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie, ça va avoir un impact positif ou un impact négatif. C'est jamais agréable pour les uns et pour les autres de faire face à des épreuves, de faire face à des choses qui sont un peu compliquées à affronter, mais ça va avoir un impact dans ta vie. Alors, est-ce qu'il va être positif ou est-ce qu'il va être négatif? Ce qui va faire la différence, ça va être la façon dont tu es équipé. Et c'est ça le thème qu'on va voir ensemble. Être équipé pour la victoire, la victoire sur les circonstances, la victoire sur nous-mêmes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un reportage, alors ça va être assez guerrier hein, quand même, comme thème, ça c'est clair. Vous allez voir pourquoi. Et j'ai vu un reportage à la télé. C'est une émission qui passe le samedi midi après le journal du 13h. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc c'est une émission de reportage. Et le thème du magazine, qui était choisi par le magazine, c'était de suivre les sauveteurs en montagne. Un métier extrêmement intéressant, assez difficile, assez dur. Et on les voit partir avec leur hélicoptère et puis aller chercher les gens qui se sont perdus dans la montagne. Et là, en particulier, on les voyait aller chercher des gens qui étaient partis pour faire une grande balade dans la montagne. Et puis, sauf qu'ils n'avaient pas fait du tout attention à l'heure. Sauf qu'ils n'étaient pas partis avec les bonnes chaussures. Sauf qu'ils n'étaient pas partis non plus avec les bons vêtements. Et qu'ils étaient partis pas avec assez de nourriture et pas avec assez d'eau. Ce qui fait qu'ils sont partis plus loin que ce qu'ils pensaient aller. Et la nuit est tombée, ils se sont perdus et c'est les sauveteurs de la montagne qui ont été obligés d'aller les chercher en hélicoptère. Ah, c'est terrible, hein. Déjà, si ça, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'ai essayé de chercher dans ma mémoire, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu ce genre d'expérience. Mais les gens, il y avait un monsieur avec sa femme qui avait, je ne sais pas, ils avaient une cinquantaine d'années. Ils sont partis dans la montagne, ils se sont perdus, ils ont appelé les secours. Les secours sont arrivés, mais en plus, il y avait une équipe de télévision avec les sauveteurs dans l'hélicoptère. Et c'était terrible parce qu'ils sont arrivés. Il y a la caméra qui a débarqué avec les sauveteurs et puis ils étaient interviewés, les gens qui s'étaient perdus. Alors ils se ramassent, c'était la nuit, ils se ramassent le flash de la caméra, ils sont éclairés. Ils étaient tout blancs, complètement fatigués. Et puis ils sont interviewés. Et tu as le journaliste qui dit, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes retrouvés dans cette situation? Le gars, il est groggy, puis il dit, bah on n'avait pas pris assez d'eau, on n'avait pas fait gaffe. Imagine, tu rentres chez toi, tu as la moitié de la France qui sait que tu t'es perdu dans la montagne. C'est pas déjà facile à vivre, mais avec ça en plus. Et cette histoire, elle nous rappelle cette autre histoire que je vous ai racontée en tout début de saison. Je vous avais raconté l'histoire de Edmund Hillary et de Tenzing Norgay. Ce sont les deux hommes qui ont réussi à gravir l'Everest en 1953. Ça remonte à quelques mois en arrière, vous vous souvenez un petit peu? Et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à remporter cette victoire? Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire cet exploit? C'est parce qu'ils étaient bien équipés, justement. Ils avaient une équipe pour repérer le chemin. Ils avaient une équipe aussi pour assurer le ravitaillement. Une équipe qui était composée de plus de 300 personnes. Et c'est ce qui fait qu'ils ont pu progresser et qu'ils ont pu atteindre leur objectif. Qu'ils ont pu remporter la victoire, gravir le plus haut sommet du monde, plus de 8000 mètres. Et on avait vu que c'était carrément le contraire d'un autre explorateur qui s'appelait Maurice Wilson, qui une vingtaine d'années auparavant avait tenté l'aventure. Mais alors lui, il était très très mal équipé. Lui, il est parti avec trois personnes, ils sont partis à quatre. Et puis, au moment de franchir le col qui menait vers le sommet, les trois gars qui l'accompagnaient, ils sont partis, ils l'ont abandonné, ils sont fâchés. Et le gars, Maurice Wilson, s'est dit « bon, c'est pas grave, je vais y aller tout seul ». Il a continué tout seul, et puis il est mort de fatigue, il est mort à bout de force, il est mort gelé, il est perdu dans l'Everest. La différence, c'est qu'il y en a qui étaient très bien équipés et puis d'autres qui étaient, un autre qui était vraiment très très mal équipé. C'est la même chose sur le plan spirituel. Pour grandir, pour s'épanouir, pour se réaliser, pour pouvoir aller toujours plus loin, pour vraiment s'épanouir dans la foi chrétienne et dans la vie chrétienne, il faut s'équiper. Il faut qu'on ait les armes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est ce que la Bible dit. Et Paul parle d'un équipement, justement. Et c'est un équipement militaire. Il prend exemple sur la panoplie du légionnaire romain. Quand Paul écrivait ses lettres, à cette époque-là, c'était Rome qui dominait tout le pourtour méditerranéen. Et il y avait des soldats romains partout. Et quand il a écrit la lettre aux Éphésiens, sur laquelle on va se pencher maintenant, il était en route pour Rome. Il était prisonnier, en tout cas. Et il était accompagné aussi de soldats romains. Donc, il avait vraiment l'image du soldat romain sous les yeux. Et voilà ce qui nous est dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 11 à 13. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Vous voyez que Paul emploie une rhétorique très guerrière qui est inspirée de l'équipement du soldat romain. Et d'ailleurs, si tu peux mettre après, verset 14. Voilà, jusqu'au verset 17, vous avez une description de l'armement du soldat romain. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Vous avez la description d'un légionnaire, d'un soldat romain. Quand on avait évoqué la grâce, tu te souviens, on avait lu dans la lettre aux Romains le combat que Paul menait contre lui-même. Il disait, quand je lis la Bible, quand je vois ce que Dieu me demande, je vois que c'est spirituel. La loi, elle est spirituelle, mais le problème, c'est que moi, je suis charnel. Et ma nature, elle me pousse à faire le contraire de ce que Dieu me demande. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Là, j'ai des pensées qui sont là. Je sais que dans mes pensées, là, c'est pas ce que Dieu me demande. Et là, ça me pousse dans le sens contraire. Dieu me tire à droite et moi, je vais à gauche. Dieu me tire vers le haut et moi, ma nature me pousse vers le bas. Il parle d'un combat, là. Et tout se joue au niveau de son esprit. Tout se joue au niveau de notre esprit. Quand on est confronté à des tentations, quand on est animé par nos désirs, par nos pensées, ça se joue au niveau de notre esprit. La foi se joue au niveau de notre esprit. L'œuvre du Saint-Esprit se fait au niveau de notre esprit. Notre esprit, c'est comme, on pourrait dire, c'est comme un champ de bataille. C'est le champ de bataille de ce conflit entre la force naturelle, qui me pousse plutôt vers le bas, et la force spirituelle, qui me tire vers le haut. Et on avait vu que seul le fait d'être en Christ pouvait nous rendre vainqueurs. Seul le fait là, de pouvoir avoir cette relation avec Dieu, avec Christ, par le Saint-Esprit, c'est ça qui pouvait nous permettre de remporter la victoire. Malgré mes faiblesses, malgré les erreurs, Dieu m'aime toujours de la même manière. Il n'y a rien qui me condamne. Même si quelquefois je suis en lutte, là, ce n'est pas pour ça que Dieu va me rejeter. Ce n'est pas parce que je combats et que j'ai cette lutte que Dieu va moins m'aimer. Et au contraire, c'est vraiment la relation et la confiance et la foi que je vais placer en lui qui vont permettre à son Saint-Esprit d'agir et qui vont me permettre là, de remporter la victoire sur le plan spirituel. La Bible nous invite aussi à prendre en considération une autre dimension. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit clair dans notre esprit. C'est celle du monde invisible, la dimension des puissances spirituelles. La Bible nous révèle qu'il y a une partie des anges, entraînée par le diable, par Satan, qui s'est révoltée contre Dieu et qui, là, à partir du moment où ils se sont révoltés contre Dieu, cherchent constamment à nuire à Dieu. Ça, on ne pourrait pas le savoir si la Bible ne nous le disait pas. Parce que les anges, ces puissances spirituelles, elles sont invisibles. Donc, voilà, il n'y a jamais un démon est venu frapper à ta porte pour te dire « j'existe ». Ça, il fallait vraiment que ce soit écrit quelque part dans la Bible pour le savoir. Mais c'est important de le savoir. C'est important de savoir que ce monde existe. Parce que ces esprits mauvais s'opposent constamment à l'œuvre de Dieu. Leur but constant, c'est d'empêcher la croissance de l'œuvre de Dieu. Leur but constant, c'est même, si c'est possible, de détruire ce qui a été établi. Alors le diable va tout faire pour contrecarrer l'œuvre de Christ en toi. L'arme qu'il utilise, ça va être l'influence du péché sur ta nature. Il va exploiter tes faiblesses. Il va te rappeler toutes les erreurs du passé, toutes les choses que tu as fait et que tu regrettes, que tu n'aurais pas voulu faire. Il va te faire croire que tu peux t'en tirer par tes propres forces. Dire, ouais, là, tu es en combat, tu es en lutte, mais vas-y, essaye, sois quelqu'un de bien. C'est en faisant le bien que tu vas remporter la victoire sur ta nature. Et en fait, ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener à t'épuiser. Puis au bout d'un moment, tu vas jeter l'éponge. Il te pousse à ça. Il va tout faire pour semer le doute dans ton esprit, pour empêcher ta croissance spirituelle, ton développement spirituel, pour empêcher que ton service, ton engagement soit efficace, pour empêcher que ça porte du fruit. Le diable emploie toute sa ruse, comme on a lu dans le texte là d'Éphésiens 6, pour te faire trébucher, pour te faire renoncer, pour te faire échouer. Il mène une conspiration pour te démolir. Le matin, quand il prend son agenda, il se dit « qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire en sorte que Aurélien trébuche ?» Et là, il consulte ses lieutenants et il met en place une conspiration. Il dit « tiens, on va essayer de le prendre comme ça. » Là, il a une petite faiblesse. La faiblesse d'Aurélien, je vais vous le dire. Non. Mais c'est une espèce de conspiration constante de ces puissances spirituelles pour nous démolir les uns et les autres à partir du moment où, surtout à partir du moment où on a fait le choix de suivre le Seigneur. Il n'accepte pas, il n'aime pas là, ce qui est en train de se passer dans notre cœur. Voilà, ça pourrait faire peur. Hein. C'est-à-dire là, peut-être tu trembles sur ta chaise en train de te dire « wow, 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 là c'est quoi là, il y a une espèce de complot cosmique. Et là, derrière chaque arbre, il y a un démon qui va me sauter dessus. » Et assez facilement, on pourrait se sentir démuni, désarmé, face à ces puissances spirituelles, parce qu'elles sont invisibles, on ne les voit pas, on ne sait pas exactement dans le détail quelle est toute leur stratégie. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Et si je te parle de ce monde invisible, c'est parce qu'il en est question dans la Bible, et c'est important de savoir que ça existe. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces puissances spirituelles, elles ont été vaincues. Que la victoire, elle a déjà été remportée. Elles sont déjà vaincues. Cette victoire, elle a été remportée à la croix. Et ça, heureusement, ça nous est dit dans la Bible aussi. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé, il s'agit de Dieu, de Jésus, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, toutes ces puissances spirituelles. Il les a publiquement livrées en spectacle. Il les a traînées dans le cortège triomphant de la croix. Ça, c'est un des plus beaux versets de la Bible. Parce que ce verset, il est en train de te dire que toutes ces puissances spirituelles qui te veulent du mal, elles ne peuvent pas te toucher. Elles ont été vaincues. Elles sont vaincues. L'image qui est utilisée ici, c'est l'image du triomphe romain. À Rome, à l'époque de Paul, quand un général romain avait remporté une victoire contre un adversaire, contre un ennemi de Rome, il célébrait à Rome ce qu'on appelait un triomphe. Et le général victorieux prenait la tête de ses troupes et il faisait un immense défilé qui traversait toute la ville de Rome et qui menait le général victorieux jusqu'au sommet du Capitole. La colline du Capitole, c'était le lieu le plus élevé de la ville de Rome. C'est là qu'était construit le temple en l'honneur de Jupiter, qui était la divinité protectrice de Rome. Et il venait pour remercier Jupiter de la victoire qui avait été remportée contre l'ennemi, contre l'adversaire. L'ennemi vaincu était livré au regard, publiquement. Et le triomphe, c'est ce qui permet de dire, qui permet de dire au peuple de Rome, l'ennemi ne peut plus rien nous faire. Nous n'avons plus à craindre l'ennemi, il est vaincu. Regardez, il est là, il est attaché, il est lié, il va être exécuté. Le chef des ennemis est humilié. Et tout le butin qui avait été pris lors de la campagne militaire était aussi exposé en signe de victoire. Ils ont été dépouillés. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça rejoint le texte dont on parlait tout à l'heure. Il a dépouillé les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Donc le diable est vaincu. Le diable, c'est cet ennemi qui ne peut plus toucher le peuple de Dieu. Il ne peut plus toucher les croyants. Le triomphe de Jésus, c'est la croix. C'est ce que nous dit Colossiens. Il a vaincu la domination du péché, il a vaincu la domination de la mort, et il a vaincu tous les agents qui s'efforcent de propager le péché et la mort. Et c'est cette prise de conscience et la foi dans la victoire de Christ qui est un élément indispensable pour envisager ce qu'on appelle le combat spirituel. Là, cette lutte que quelquefois on a à faire. On doit vraiment être au départ, être assuré de la défaite des puissances spirituelles. Tu as un autre texte dans la même épître, c'est au chapitre 1, verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, de ses puissances spirituelles, et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. » Qu'est-ce que ça évoque, ça? Ça évoque ce qu'on appelle l'asile politique. Je me tourne vers les juristes, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, mais quelqu'un qui demande l'asile politique, par exemple, il est dans un pays où il y a la dictature, et lui, c'est un opposant, il se bat pour la liberté, et dans son pays, il risque la peine de mort. Il risque d'être mis en prison et d'être torturé. Il y a quelques années en arrière, vous vous souvenez peut-être, mais on a eu des Érythréens qui sont venus à Angers, ils avaient demandé l'asile politique parce qu'ils étaient chrétiens, et en Érythrée, les chrétiens sont persécutés. Et là-bas, les chrétiens, s'ils ne renoncent pas à leur foi, vous savez ce qu'on leur fait en Érythrée? On les enferme toute la journée dans des containers. Quand le soleil tape sur le container, dedans tu boues, c'est insupportable. Et donc ils ont demandé l'asile politique pour pouvoir échapper à ces circonstances-là. Ils ont été transférés d'un pays où régnait la domination, où régnait la terreur, où régnait l'oppression, pour aller dans un royaume, enfin dans une nation, un pays, où il y a la liberté, où ils peuvent être totalement mis à l'abri de ce qui les menace. Quelqu'un qui a le statut de réfugié politique ne peut plus être extradé. Ils peuvent demander à la France, dire, là, eux, ils sont érythréens ou notre nation, mais on veut les juger parce qu'au regard de la loi, dans notre pays, ils sont coupables, ils sont des opposants, ils n'ont pas le droit de dire ça, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de critiquer. Mais non, s'ils ont le statut de réfugiés politiques, ils sont intouchables. Ils ne sont plus soumis ni à la peine de mort qui est décrétée dans leur pays d'origine, ni aux menaces de torture. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Tu es intouchable. Si ta foi est authentique, si vraiment tu as donné ton cœur au Seigneur, les puissances spirituelles ne peuvent pas te toucher. Et ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut acquérir, qu'il faut saisir par la foi pour pouvoir envisager les luttes auxquelles on doit quelquefois faire face. Alors la question, bien sûr, qui, j'en suis sûr, te brûle les lèvres, c'est comment concilier la victoire remportée par Dieu sur le péché, sur le diable et les esprits mauvais, avec l'idée de combattre. Parce que l'idée du combat, elle est quand même clairement exprimée. Hein, si on revient à Éphésiens 6, ce sont les versets 10. Voilà, c'est ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Lutter, enfin, il est vraiment question de confrontation, il est vraiment question de combat, là. Alors, si la victoire a été remportée, normalement, tu n'as plus besoin de combattre. Ça paraît logique. Alors, pourquoi donc? Alors, je vais te dire. Les puissances spirituelles sont vaincues, c'est clair. On est d'accord, hein. Je crois que les textes sont clairs. Mais elles restent toujours à l'œuvre. Ils ont encore la possibilité d'agir, elles ont encore la possibilité d'agir tant que le royaume de Dieu n'a pas encore été définitivement établi. La victoire, elle est remportée, mais elle n'est pas encore définitive. Elle sera définitive quand tout sera accompli, quand on sera auprès du Seigneur, quand il y aura un nouveau ciel, quand il y aura une nouvelle terre. Là, le monde actuel dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde renouvelé. Alors c'est sûr, quand Jésus règnera, quand Dieu sera présent dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre qui nous est promise dans les textes bibliques, là, il n'y aura plus de moyens d'action pour ces puissances spirituelles. Mais comme le monde dans lequel nous vivons est encore imparfait, eh bien, elles ont encore des accroches, elles ont encore des possibilités d'agir. Et c'est ce qui fait que le chrétien doit aussi faire face à leurs menaces. Le temps présent donne encore prise à ces puissances spirituelles. Et ça suppose qu'il y a des moments où il faut faire face. Ça suppose qu'il y a des moments où il faut mobiliser sa volonté. d'une façon plus particulière, mobiliser sa foi pour le remporter sur les difficultés qui sont liées à cet état imparfait. Il y a des moments de lutte spirituelle. Mais tu ne peux entreprendre cette lutte que si d'abord tu es animé par la conviction que Christ a déjà remporté la victoire. Ça, c'est essentiel, c'est primordial. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'intègres pas bien comme il faut que c'est à la croix que la victoire a été remportée et que c'est Christ qui a remporté la victoire, ce que tu peux croire, c'est que ça va être toi qui vas être obligé de remporter la victoire sur les puissances spirituelles. Tu vas croire, tu peux être porté à croire que ce sont tes prières qui vont abattre les puissances spirituelles. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur l'utilisation du nom de Jésus quand on avait parlé de la prière là, il y a quelques semaines en arrière. C'est comme si l'invocation du nom de Jésus ou la récitation de versets bibliques avaient en eux-mêmes la force, la puissance, la capacité de dégommer les démons, de décapiter les démons. Au nom de Jésus, poum, poum, le démon il tombe toi. Quand tu as dit Jésus, poum, poum. C'est comme si ta prière c'était un scud, un missile. Et puis poum, tu fais tomber les démons à chaque fois. Si dans ta tête, tu penses que ça se passe comme ça, ça veut dire que tu crois que c'est ta prière qui va abattre les démons. Mais au verset 10, il est dit que c'est par sa force toute puissance. C'est par la puissance de l'Esprit, c'est par la puissance de Dieu que la victoire peut être remportée sur les puissances spirituelles. Ça signifie que c'est l'Esprit en toi qui agit. C'est ta foi qui proclame cette victoire remportée, qui fait que les puissances spirituelles sont vaincues. Ta prière, et je rejoins ce qu'on a déjà partagé ensemble, ta prière est l'expression de ta foi dans la victoire de Christ. C'est la foi qui te permet de faire face aux assauts de l'adversaire, aux assauts de l'ennemi. Alors, quand tu es obligé de lutter contre des traits de caractère et puis que là, c'est compliqué, c'est difficile et tu as du mal à remporter la victoire. Quand la tentation, elle est là, que ça te mine là, de l'intérieur, que tu as du mal à contrôler tes pensées. Quand tu dois affronter une épreuve qui te déstabilise. Quand tu dois prier aussi pour quelqu'un qui s'approche du Seigneur. Toi, à chaque fois, ça va être ta foi qui va faire la différence. Ce n'est pas ta prière en toi-même, mais c'est encore une fois en elle-même, mais c'est la foi que tu vas placer en Christ. Tu sais que ta louange, c'est la célébration de la victoire de Christ. Et en fait, quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, les paroles que nous prononçons, c'est une proclamation de la victoire de Christ. Quand on chante, on bénit Dieu qu'on puisse rentrer dans sa présence. Et si on peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est parce que Christ a remporté cette victoire. Comme le disait Guillaume tout à l'heure dans la louange, il n'y a plus besoin de rituel. Non, parce que le voile s'est déchiré et je peux rentrer dans la présence de Dieu. Eh bien, à chaque fois là que j'élève ma voix vers Dieu, là, c'est comme une parole triomphale. Je participe au triomphe qui élève le Christ, qui élève Dieu. Je suis libre. L'ennemi est vaincu. Et donc, c'est cette proclamation là qui fait la différence. C'est cette proclamation. Il y a le risque opposé. D'un côté, tu peux avoir une vision complètement spirituelle des choses. Et là, tu penses que c'est ta prière, c'est ton investissement qui va te permettre de remporter la victoire. Mais tu peux aussi être dans le côté opposé, dans le sens où ce serait un manque de pas du tout prendre en considération l'œuvre des puissances spirituelles. Tu te dis, bon, voilà, Christ a vaincu les puissances spirituelles. Le danger, c'est que tu risques de ne pas faire preuve de discernement. Parce que si la Bible nous parle justement de l'action de ces puissances spirituelles, c'est aussi pour nous mettre en garde, c'est pour dire, bah, fais attention, là, il faut que tu fasses preuve de discernement, parce qu'il y a des choses, il y a des moments où tu vas être en lutte contre ta nature, il y a des moments où tu vas connaître de l'opposition autour de toi, mais derrière ça, il peut y avoir l'œuvre de l'adversaire. Ça peut être tangible. Et si tu fais pas attention à ça, bah, tu peux un peu t'endormir en réalité. Et sans t'en apercevoir, tu peux te faire tirer par le bas. Il faut discerner ce qui te tire vers le bas. Il faut discerner ce qui te menace. Il faut que tu discernes ce qui te fait stagner, ce qui fait que tu progresses pas, ce qui t'empêche d'avancer. Toi ou ceux qui t'entourent d'ailleurs, parce que quelquefois on peut discerner des choses chez les gens qui nous sont proches et se mobiliser aussi dans la prière pour eux. Même si ces puissances ont une possibilité d'action encore, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur champ d'action est restreint. Elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent, quand elles veulent, si elles veulent. Le champ d'action de ces puissances se cantonne à l'espace qui leur est donné. Ça aussi, Il faut en être conscient, il faut bien s'en souvenir. Ce sont les hommes qui déterminent d'une certaine manière le périmètre dans lequel ces puissances peuvent agir. Plus l'espace est ouvert aux puissances spirituelles, plus cet espace est grand, et plus les puissances ont la possibilité d'agir. Mais plus cet espace est petit, et moins elles ont la possibilité d'agir. L'espace, il est vraiment grand ouvert pour les personnes qui, non seulement, ne se soucient pas du tout de Christ, de l'œuvre de Christ, et bon, ils ne croient pas en Dieu ou ils se moquent de Dieu, mais en plus, quand ils se tournent vraiment vers des choses, vers les choses occultes. Quand là, ils pratiquent l'astrologie, vous voyez, ce genre de choses. Quand ils se font tirer les cartes, le tarot, ils font du spiritisme, ils veulent rentrer en contact avec les esprits des morts, ils font tourner les tables. Quand ils consultent les voyantes pour connaître leur avenir, tout ça, c'est du mensonge, hein, parce que dans la Bible, il est dit qu'on ne peut pas rentrer en communication avec les esprits des morts. Donc, les manifestations, ce n'est pas les morts, hein, ce sont ces puissances-là. Même chose, hein. Les gens ils pensent qu'ils connaissent quelque chose de leur avenir, mais le diable et ses puissances spirituelles, elles ne sont pas omniscientes. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc ces puissances ne discernent pas, ne savent pas ce qui se passe dans l'avenir. Après, c'est plus une question. Ils manœuvrent pour faire en sorte que ce qu'ils annoncent se réalise. C'est plutôt comme ça qu'il faut percevoir les choses. Mais là, c'est vraiment une porte qui est ouverte. La magie, la sorcellerie, le pendule, les pratiques superstitieuses. Et des fois, ça entraîne même des manifestations surnaturelles. Il y avait une personne qui, justement, avait touché un peu tous ces genres de choses. Et elle mettait du sel dans chaque coin de sa maison, etc. Et il se passait des drôles de trucs dans sa maison. Le soir, pendant la nuit, ou même pendant le jour, il y avait des bruits dans son garage, comme s'il y avait quelqu'un qui travaillait dans le garage, qui bougeait dans le garage. Vraiment, quand ils allaient voir... Il n'y avait jamais personne. La nuit, des espèces de grincements. Le truc le plus étonnant, c'est que dans la chambre d'un des enfants, il y avait une armoire qui était en face du lit. Et pendant la nuit, alors que toutes les lumières étaient éteintes, il y avait une lumière qui s'allumait dans l'armoire. Enfin, l'enfant, il voyait une lumière. Mais il n'y avait rien dans l'armoire. Tu vois, en fait, là, ce genre de pratique, ça ouvre un grand espace. Et cette personne, elle avait demandé la prière. Elle en avait parlé à Sandrine. Elle dit, voilà ce qui se passe dans ma maison. Alors Sandrine, elle dit, mon mari est pasteur. Elle a dit, il pourrait venir à la maison pour que ça s'arrête, tout ça. Alors moi, j'avais préféré qu'elle vienne à l'église pour écouter l'évangile. C'est pas que j'avais peur, mais je voulais qu'elle entende le message de l'évangile pour qu'elle sache d'où venait la délivrance, d'où venait la libération de ces choses-là. Parce qu'autrement, si tu viens et puis que... elle croit que tu es comme un magnétiseur ou un sorcier, il n'y a pas d'intérêt. Là, elle a entendu le message de l'évangile. J'ai prêché sur le gadarénien ce jour-là. Je trouvais que c'était assez bien adapté. Et on a pris assez approché, on a prié ensemble, et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Il n'y a plus ce genre de manifestation dans sa maison. Donc, toi, plus la porte est ouverte, plus tu fais les choses comme ça consciemment, et plus ça donne la possibilité à ces puissances d'agir. Et les gens, d'ailleurs, qui ont connu ce genre de manifestation et qui, après, se convertissent, qui donnent leur cœur au Seigneur, il y a un combat à mener. Parce que ça laisse des choses. Souvent, j'ai remarqué, ces personnes-là, elles ne sont pas tranquilles. Elles ont du mal à rentrer dans la paix du Seigneur. Elles ont du mal à être paisibles intérieurement, parce qu'elles restent dans la crainte. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vu ces puissances spirituelles à l'œuvre. Elles ont fait tourner les tables, elles ont entendu des voix, elles ont vu des trucs comme je viens d'évoquer. Et... ils se sentent encore menacés. Alors c'est vrai, ils ont donné leur cœur au Seigneur, ils croient en la puissance du Seigneur, mais parce qu'ils ont fait l'expérience de ces choses-là, ils ne sont pas tranquilles, ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que le diable va exploiter, il exploite leur crainte, parce que ça les empêche de vivre l'épanouissement de la foi. Ça les empêche vraiment de prendre la libération totale, là, parce qu'ils ont peur, ils ont la crainte. Et d'une certaine manière, ils restent asservis. Et c'est nécessaire pour ces personnes-là de saisir par la foi que le pouvoir de ces puissances est inefficace à partir du moment où ils sont passés d'un royaume à un autre. Ça y est, ils ont l'asile politique, ils ne peuvent plus être touchés. Souvent, ce que je fais, c'est que je leur propose de lire les versets dans Colossiens. Je leur dis, là, maintenant, saisissez-vous de ça. Là, prenez ça par la foi et croyez que vous êtes intouchables. Là, vous passez d'une dimension, d'un monde à un autre. Vous êtes hors de portée maintenant. y a une histoire qui est assez, qui peut permettre de comprendre ça. Le Danemark, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été envahi par les Allemands en 1940. Alors, ça a été assez facile pour les Allemands de prendre le contrôle du Danemark. Je ne veux pas être méprisant pour les Danois ni quoi que ce soit. Tu vois à peu près la dimension du Danemark par rapport à l'Allemagne, un petit pays. Bon, pas très peuplé, avec une armée pas très puissante. L'invasion du Danemark, ça a pris 2 heures. Il y a eu 16 morts du côté danois. Donc, tu vois, ça a été assez rapide. Et l'Allemagne nazie a occupé le Danemark pendant tout le temps de la Seconde Guerre mondiale. Mais à partir de 1944, il y a eu le débarquement en Normandie. Les troupes alliées ont débarqué en France et les troupes alliées ont commencé à progresser vers l'Allemagne. Et l'Allemagne s'est sentie menacée. Alors pour pouvoir faire face à la progression des troupes alliées, elle a été obligée de dégarnir certains points de son empire, de l'empire que l'Allemagne est constitué, et elle a fait revenir des troupes du Danemark pour pouvoir résister aux Américains et aux Alliés qui avaient débarqué en France. Ce qui fait que pratiquement tous les soldats et tous les fonctionnaires du régime nazi ont quitté le Danemark. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé en place tous les signes de leur présence. Et en particulier, ils ont laissé les bannières, les drapeaux avec la croix gammée sur tous les bâtiments publics, sur le Parlement, sur le gouvernement, etc., etc. Dans les faits, les Allemands n'avaient plus de pouvoir décisionnaire. Ils n'avaient plus de moyens de pression, mais ils ont maintenu l'illusion du contrôle. On est toujours là, simplement parce qu'il y avait les bannières, il y avait les drapeaux. Les Danois, ils ont été libérés par les Américains en mai 1945, alors que dans les faits, ils étaient déjà libres d'une certaine manière. Mais ils se sont laissés illusionner, dominer. Bon, gardez ça entre nous, hein. Pas ça aux Danois. Mais tu es libre. Et toi, où c'est encore la foi qui va faire la différence, c'est tu es libre. Il faut que tu saisisses par la foi ce que te dit la Bible. Tu es libre. Le diable, c'est un menteur. Il veut te faire croire que tu es sous sa domination. Il veut te faire croire que tu es vaincu, alors que tu es vainqueur. Il veut te faire croire que tu es sous contrôle, alors que ce n'est pas vrai. Et il revient aux chrétiens par la foi de pleinement croire en sa libération. Et à partir de ce moment-là, il va vivre dans la paix. Il ne faut pas vivre dans la crainte perpétuelle des démons, toi, quand tu marches dans la rue. Et puis, hop, là, Non, il ne faut pas voir les démons non plus, partout, je veux dire. J'ai perdu mes clés, c'est un mauvais coup de Satan encore. Ou quand tu tombes malade, je veux dire, tu tombes malade, mais ce n'est pas forcément le diable qui veut te dégommer. Va dans les hôpitaux, il n'y a pas que des chrétiens. Non, il y a des microbes aussi, il n'y a pas que les puissances spirituelles. Tu vois, il faut avoir un discernement, une vision équilibrée des choses. Et ce qui est important, et toi, tu vas l'acquérir en ayant foi dans cette libération. Tu es libre. Et tu as vraiment tout en main à ce moment-là pour t'épanouir, pour vivre les choses paisiblement. Quand tu es croyant, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, quand tu as vraiment pris cette décision de marcher avec lui, les puissances ne peuvent pas prendre le contrôle. L'espace est beaucoup plus réduit pour les personnes qui ne marchent pas avec le Seigneur. Mais ils vont quand même tenter des trucs. Ils vont exploiter le manque de connaissances, les choses que tu ne sais que partiellement. Ils vont exploiter tes faiblesses, tes défauts, tes imperfections. Ils vont exploiter les mauvais choix que tu peux faire. Et ils vont lancer l'offensive par leur pouvoir de suggestion. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont te suggérer des choses. Dans la panoplie qui est décrite dans Éphésiens 6, la première chose qui arrive dans la description, c'est la vérité. C'est la première arme qui est nommée par Paul. Certainement parce qu'elle est à la base de tout, la vérité. Et elle est comparée à une ceinture. Pourquoi ? Pourquoi elle est comparée à une ceinture ? Parce que, tiens, voilà, très bien. Vous voyez la ceinture. Parce que à l'époque de Paul, les gens étaient vêtus d'une tunique. La tunique, c'était un morceau de tissu carré dans lequel étaient découpées des ouvertures pour les bras et la tête. C'était aussi simple que ça. Et la tunique, elle pouvait porter être comme un vêtement ample, comme un vêtement flottant. Tiens, Marvin, viens. Tu peux t'approcher, s'il te plaît. Ben oui, n'aie pas peur. Je pense qu'on a besoin d'une démonstration visuelle pour savoir ce que c'est qu'une tunique. Tiens, mon ami, tu vas être très beau là-dedans. Allez, vas-y. Moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà, en fait, une tunique, ça ressemblait à ça. C'était pas forcément cousu sur les côtés, d'ailleurs. Voilà, mais ça, en plus, ça te va très bien. Ça aurait été quand même dommage de se priver. Donc voilà. Donc si tu portes la tunique, si tu prends la tunique et tu la portes comme Marvin la porte en ce moment, là, il la porte de manière flottante. Sauf que pour les soldats, la ceinture était nécessaire. Pourquoi est-ce que la ceinture était nécessaire ?
Enfin, ça va faire la différence.
Allez, tiens. Je sais, je prends des risques. Hein. Mais contrôlé. La ceinture, qu'est-ce qu'elle va avoir pour effet ? Décris-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Enfin, toi ou quelqu'un d'autre. Hein. C'est moins flottant, ouais. La tunique flottante, tu pouvais la mettre pour aller à la fête. Toi, la tunique longue, comme ça, tu pouvais là pour quand tu es allé dans une réception ou quand tu étais chez toi, tranquille avec ta famille. Mais la ceinture, pour le soldat, elle est absolument nécessaire parce que, premièrement, le légionnaire devait faire de longues marches. Aujourd'hui, les troupes, elles sont héliportées, donc elles peuvent faire des centaines de kilomètres en quelques heures. À l'époque, la légion... Attends, fais gaffe. Elle n'est pas fermée, ta ceinture. Il fallait qu'ils aillent sur le lieu de combat à pied. Et ils pouvaient marcher des jours entiers. Et bien, pour marcher, il vaut mieux que tu aies la ceinture serrée. Il vaut mieux que le vêtement soit beaucoup plus près du corps. Et autre raison pour laquelle il y avait besoin d'une ceinture, c'est que le combat, à cette époque-là, il était livré au corps à corps. Aujourd'hui, là, tu te fais sniper, hein, à distance, à plusieurs mètres de distance. Voilà, ça c'est la photo qui permettra d'illustrer le message sur le site internet. Merci. Non, t'inquiète. Donc pour le corps à corps, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être libre de ses mouvements. Si t'es pas libre de tes mouvements, si tu t'empêtes dans ta tunique, bah tu es sûr de te ramasser un coup d'épée à un moment. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient une ceinture en cuir pour serrer la tunique contre leur corps et pour être entièrement libre de leurs mouvements. Tu vois, c'est, je sais pas, si on prenait... Ouais, vas-y, tu peux. Attends, rends-moi ma ceinture, s'il te plaît. Okay. Mais c'est ça. T'imagines aujourd'hui un soldat, un GI. T'as l'image du GI ? Il a son barda sur le dos, il a sa mitraillette, son FAMAS, et puis au moment où il va donner l'assaut, il se précipite, mais il n'a pas mis sa ceinture. Et puis, son pantalon qui descend, et puis il arrive comme ça. T'imagines, tu vois l'image ? Non, il a besoin de la ceinture. Sinon, il n'est pas libre de ses mouvements. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se faire dégommer. La ceinture, c'est ce qui te permet de toujours être en alerte. C'est ce qui te permet d'être vigilant, prêt à agir. Le légionnaire qui a noué sa ceinture, il est prêt à se mettre en marche, il est prêt à combattre. Pourquoi ? Parce qu'il est libre de ses mouvements, entièrement libre de ses mouvements. Et la vérité, elle est indispensable pour deux choses. On va terminer là-dessus. La vérité, tout d'abord, elle rend libre. Souviens-toi des paroles de Jésus qui sont dans Jean au chapitre 8, verset 31, où il dit à ceux qui l'écoutaient, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité rend libre. Là, si tu acceptes ce que dit la parole, l'enseignement de Jésus, ça va te libérer. Et la deuxième raison pour laquelle la vérité est indispensable dans ce combat personnel, c'est que l'arme du diable, c'est le mensonge. C'est ce que Jésus dit un peu plus loin, au verset 44. Le diable ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Le diable est un menteur. Le diable, il te dit, pour être sûr d'être sauvé, tu dois être pur. Pour être sûr d'être sauvé, il faut que tu fasses plein de choses bien. Et tu n'es pas assez pur. Là, tu ne fais pas assez de bonnes choses. Tes actes parlent contre toi. Tes paroles parlent contre toi. Souviens-toi ce que tu as dit à ton frère ou à ta sœur l'autre jour. Là. Souviens-toi comment tu as répondu à tes parents. Là, regarde un peu ce qu'il y a dans ton cœur par rapport à ce gars ou à cette fille au lycée. Toi, tes pensées même parlent contre toi. Et tu crois que tu vas être sauvé ? Ça, c'est un mensonge. Parce que la vérité, elle te dit, tu es sauvé parce que tu as foi dans la décision souveraine de Dieu de t'avoir sauvé. À partir du moment où tu as donné ton cœur, où tu as accepté que Jésus était mort pour toi, tu es sauvé. Ça ne va pas empêcher la lutte, ça ne va pas empêcher le combat, mais tu es sauvé. Il n'y a plus, la vérité te dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La vérité te dit, le sang de Christ t'a purifié. Dieu te voit pur. Il faut que tu travailles à ta pureté, mais Dieu te voit pur. Tu vois l'intérêt entre le diable, ce que dit le diable et ce que dit la vérité ? C'est ce qu'enseigne la deuxième arme qui est citée par Paul. Il parle de la cuirasse de la justice. La cuirasse du légionnaire, c'était une protection métallique qui était disposée sur le thorax pour éviter que les organes vitaux soient touchés, en particulier le cœur. Eh bien, Christ a accompli ce qui était juste pour nous sauver. Il a acquis pour nous cette justice et il nous l'a donnée. Lui, il était parfait. Il a accepté de mourir pour chacun d'entre nous. Et il dit à Dieu, voilà, moi je suis juste, je meurs pour les injustes, mais cette justice, ma justice, je l'ordonne. Et Dieu nous voit justes. Rien ne peut contrecarrer cette décision souveraine de Dieu de nous imputer la justice de Christ. La vie éternelle que nous avons reçue, elle est protégée par la justice de Christ. Et c'est ce qui nous permet de faire face aux assauts de l'adversaire qui veut nous dessécher par la culpabilité, qui essaie de nous affaiblir en nous faisant croire qu'on n'est jamais assez bien, qu'on ne fait jamais assez bien. Le diable, le menteur, il te dit... Si t'as pas envie de prier, c'est pas grave. T'as déjà prié la semaine dernière, ça pourra attendre la semaine prochaine. Ne te casse pas la tête avec ça. T'es pas obligé de rechercher la présence de Dieu. Là, t'as eu déjà la réunion de jeunes samedi dernier, on est jeudi, ça va le faire. Je vais avancer avec ça. Le diable te dit ce genre de choses. Il te dit... De toute façon, c'est pas la prière qui compte, c'est la foi qui compte. Xavier l'a dit ça le mois dernier. C'est la foi qui compte. Donc, cherche pas, prends pas du temps, cherche pas, mets pas en œuvre ta volonté pour ça. La vérité te dit, priez sans cesse. Recherche toujours la face du Seigneur. Prends ce temps. Le but, c'est pas d'avoir un moment mécanique. Le but, c'est simplement de rechercher la face du Seigneur. C'est de contempler sa face, c'est de pouvoir puiser en lui la paix, la joie, l'amour qui nous sont nécessaires. La vérité te dit, faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, je ne vais pas compter sur mes propres forces, mais je vais rechercher la présence du Saint-Esprit. Le diable te dit, si Dieu tarde à t'exaucer, s'il ne te bénit pas comme tu voudrais, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. C'est qu'il s'occupe des autres, mais toi, il ne s'occupe pas de toi. Et la vérité te dit, rien, jamais rien ne me séparera de l'amour de Dieu. La vérité te dit, Dieu est amour et son amour ne change jamais. Les choses se passent peut-être pas exactement comme tu pensais, comme tu désires, mais ça ne signifie pas que l'amour de Dieu a changé, qu'il n'est plus là. La vérité te dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est pas forcément mon temps. Mais l'important, c'est que ce soit le temps de Dieu pour que les choses soient faites le mieux possible. Voilà ce que me dit la vérité. Le diable, le menteur, te dit, ce péché-là, c'est pas grave. Ah, tu peux prendre un peu de bon temps avec ce garçon ou avec cette fille. Ah, tu peux te détendre un peu en allant boire avec les copains, les copines. Mais tu sais à quoi ça va te mener. Le diable te dit, il n'y aura pas de conséquences. Là, tu es dans un environnement où les gens de l'église ne te connaissent pas. Et puis d'abord, Dieu est amour. Alors Dieu pardonne. Il comprend qu'en ce moment, c'est un peu dur, j'en ai marre, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'évacuer mon stress, etc. etc. Tu vois comment le mensonge fonctionne. Alors que la vérité te dit, si tu aimes Jésus, tu ne feras pas quelque chose qui l'attristera. Tu ne feras pas quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il veut pour toi et qui est bien pour toi. La vérité, elle te dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. La vérité te dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et cette relation d'amour que j'ai avec Christ, c'est ce qui me conduit à vivre cette vie en paix, à pouvoir dire non aux mensonges. Le diable te dit, te prends pas la tête pour servir. Si tu commences à servir le Seigneur, si tu t'engages, tu vas avoir des problèmes, ça va être les difficultés, ça va être les tracas, tu vas être obligé de te confronter aux autres, etc. etc. Et puis de toute façon, t'es pas assez doué. T'as aucun talent particulier. Tu joueras jamais de la guitare comme Luc Dumont, ni comme Jimmy Lahaye. Donc laisse tomber. Tu ne prêcheras jamais comme Tony Campolo. Arrière de moi, Satan. Donc, pourquoi est-ce que tu veux t'engager plus ? Autant laisser faire les autres. Les autres font très bien. Il n'y a pas besoin de moi. Sauf que la vérité, elle te dit, tu es unique. Tu es la seule personne comme toi. Il n'y a personne d'autre comme toi. Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des compétences et tu as quelque chose à faire pour son œuvre. Dieu te dit, la vérité te dit, tu as quelque chose à faire pour Dieu. Tu es membre du corps du Christ et ta contribution, elle est essentielle. La vérité te dit, Dieu est ouvrier avec toi. Et Dieu cherche constamment des ouvriers. Le diable te dit, non, vraiment, t'es fort. Vraiment, t'es beau. T'es un bon, toi. Tout ce que tu fais, t'as le désir de le faire bien. C'est bien, tu es au-dessus du lot. Tout ce que les autres font, si toi tu le faisais, tu le ferais bien mieux. L'Église, là, elle te donne l'occasion de briller en exprimant tes talents. Ça va être une bonne tribune pour toi. Tu pourrais utiliser ce tremplin pour te faire valoir, pour susciter l'admiration, pour que les gens t'aiment, pour que les gens aient besoin de toi, pourvu qu'ils aient besoin de moi. Mais la vérité te dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. La vérité te demande là de scruter tes motivations. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Pourquoi tu veux faire les choses ? C'est quoi qui guide ton engagement ? C'est quoi qui guide ton désir de servir ? La vérité te dit, les dons que tu as, Dieu te les a donnés pour être au service des autres. Et si tu es au service, tu es en dessous, tu n'es pas au-dessus. La vérité te dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit qui doit nous animer. Tu vois comment la vérité, à chaque fois, te libère des mensonges de l'ennemi. On a besoin de la vérité, on a besoin de cette ceinture. On a besoin d'être libre de nos mouvements. On a besoin de voir clair, de façon à ce que le mensonge ne l'emporte pas sur nous. On va s'incliner, on va simplement demander au Seigneur qu'il puisse vraiment nous éclairer par rapport à ça. On n'a aucun effort à faire pour être sauvé, mais on en a à faire pour toujours mieux comprendre les choses spirituelles. On en a à faire pour vivre ces choses par la foi. C'est pour ça qu'il est question de croissance spirituelle dans la Bible. Lire la Bible, ça fera toujours appel à ta volonté. Prier fera toujours appel à ta volonté. Venir écouter l'enseignement fera toujours appel à ta volonté. Témoigner fera appel à ta volonté. Participer à la vie de l'Église, tout ça, ça fera toujours appel à ta volonté. Il y aura toujours une décision qui déterminera ces choses-là. Sauf que ta nature te dissuade de faire tout cela. Et c'est ça que l'adversaire veut exploiter. Alors, il faut qu'on ouvre les yeux afin de ne pas se laisser tirer vers le bas, mais toujours grandir. Et ça, c'est possible si on est équipé, si on a la ceinture de la vérité, si on a la cuirasse de la justice. C'est la solution la plus simple, c'est de s'accommoder. C'est de se dire, bon, ben voilà, je fais ce que je peux, et je donne le minimum, je fais le minimum dans ma vie personnelle, dans mes relations avec les autres, dans mon engagement. Ça, c'est la solution la plus simple. Mais il y a une autre solution. C'est de faire preuve de discernement et de combattre contre les courants contraires, contre le vent qui te pousse en sens inverse. impossible par nos propres forces. Mais c'est possible par la force toute-puissance du Seigneur. Cette force toute-puissance dont il est question dans Éphésiens 6. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir notre cœur, prendre ce moment, cet instant, se laisser porter par la musique, mais vraiment pour discerner les mensonges peut-être qui sont dans notre cœur ce soir. J'en ai dit certains, mais peut-être qu'il y en a d'autres là qui te touchent, qui te ligotent, qui font que tu n'es pas libre de tes mouvements, qui font que tu n'arrives pas vraiment à t'épanouir dans ta vie personnelle parce qu'il y a un mensonge, parce qu'il y a des pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon, parce qu'il y a des pensées qui te disent là que tu n'en fais pas assez, parce qu'il y a des pensées qui te disent que tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de lire la Bible, tu n'as pas besoin là des autres, tu n'as pas besoin des prières des autres, du secours des autres. Ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit puisse nous apporter la lumière dont on a besoin ce soir, afin qu'on puisse discerner les mensonges, et que ce soit la vérité qui prenne toute la place, afin qu'on soit pleinement libre. Oui, Seigneur, vois nos cœurs qui sont ouverts devant toi. Je te demande vraiment que par ton esprit, tu puisses apporter la lumière dont nous avons besoin. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Lorsque nous te donnons notre cœur, notre vie, nous sommes dans la lumière, dans ce royaume de lumière. Je te prie, s'il te plaît, Seigneur Dieu, que la lumière se fasse dans nos cœurs. Si elle se fait, ce n'est pas pour nous condamner. C'est au contraire pour que nous soyons libérés. Ce n'est pas pour que nous puissions rapetisser, être abattus, mais c'est au contraire pour que nous puissions être debout, tenir ferme, comme le dit ta parole. Je demande que chacun de ces jeunes présents ce soir puisse être équipé pour tenir ferme. Que ton esprit apporte la vérité vraiment dans les cœurs, dans les vies. Oui, Seigneur. Vois mon cœur qui est ouvert sincèrement devant toi. Change les choses, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi de pouvoir saisir par la foi la victoire que tu as remportée à la croix sur les puissances spirituelles. Donne-moi de pouvoir la proclamer par ma prière, de pouvoir la proclamer par ma louange, par mon adoration. Donne-moi de pleinement saisir et de pleinement croire que l'ennemi est vaincu. Il va toujours chercher à exploiter, à avoir l'avantage. Mais parce que je suis en Christ, parce que je me réfugie en toi, parce que j'ai foi dans ta parole, parce que j'ai foi dans la victoire, je ne peux pas être abattu, je ne peux pas être touché, je ne peux pas être à terre. Je suis victorieux parce que je participe à ta victoire.